Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, le gouvernement congolais a pris l'option de construire de nouvelles prisons pour pallier à la surpopulation et aux mauvaises conditions carcérales. C'est la ministre de la Justice qui l'a déclaré hier lundi après son audition à l'Assemblée nationale par la Commission des droits de l'homme. Les ménages des déplacés qui ont fui la guerre se sont installés sous des espaces vides dans le groupement qui bâtit en territoire de Nyiragongo. Nous sommes au Nord Kivu. Par manque d'assistance et avec les pluies de ces derniers temps, ils vivent dans des conditions précaires et lancent un SOS au gouvernement. L'invité de ce journal est le médecin chef des zones de santé de Nyiragongo au Nord Kivu. Dr Thierry Touano parle de la crise humanitaire qui affecte à Kanyaruchinya et ses environs des milliers de déplacés et autres autochtones. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le gouvernement a pris l'option de construire de nouvelles prisons pour pallier à la surpopulation et aux mauvaises conditions carcérales. C'est la ministre de la Justice qui l'a déclaré hier lundi après son audition à l'Assemblée nationale par la Commission des droits de l'homme. On écoute Rose Mutombo dans cet extrait proposé par Alain Irung.
J'ai été auditionné la dernière fois par la Commission des droits de l'homme par rapport aux différentes conditions carcérales et certains problèmes qui se pose dans mon secteur. Il faut relever par rapport aux conditions carcérales. Nous avons un problème sérieux en RDC puisque les différentes prisons existantes datent de l'époque coloniale et que ça n'était pas destiné à la capacité actuelle. C'est pourquoi presque dans toutes nos provinces, il y a surpeuplement. Un, la population a augmenté de taille. Deux, les taux de criminalité aussi. Ajouté à cela, la pauvreté et il y a plusieurs infractions qui sont commises. Mais cela étant, au niveau du gouvernement, nous avons levé l'option de construire des nouvelles prisons et que les processus sont en cours d'appel d'offres. Cela va nous permettre de désengorger et de ne plus connaître cette situation-là.
Plus de 25 détenus sont décédés à la prison centrale de Bounia, en Ituri, au cours des derniers mois. C'est à la suite de mauvaises conditions de détention dans cette maison carcérale qui enregistre actuellement 2000 détenus pour une capacité d'accueil de 500. Selon le médecin directeur du centre hospitalier de cette prison, les patients sont soumis à un régime alimentaire maigre qui diminue leur système immunitaire. C'est déjà dans un état critique que la plupart sont transférés à l'hôpital général des références de Bounia. Cela faute d'un stock suffisant de médicaments à la prison et d'une bonne alimentation, indique le docteur Jean-Robert Watoum. Il est dit au micro d'Ezekiel Mouzalia.
On a une moyenne de 3 à 4 décès par semaine dans ces jours, et ce qui nous met vraiment mal à l'aise. Vous comprenez avec moi qu'on a une moyenne de 8 à 10 décès par mois. Ça, c'est pour les deux derniers mois ici. Et dont les pathologies qui reviennent le plus souvent. Il y a toujours une pathologie pulmonaire. Nous soupçonnons la tuberculose, étant donné que toutes les conditions sont réunies pour que les bacilles de Koch, agent causal de la tuberculose, puissent se parapier facilement dans cette communauté carcérale. Et sur le terrain de malnutrition, vous comprenez avec moi, la personne a déjà perdu son immunité naturelle et le bacille de Koch n'est qu'un opportuniste. Il vient de greffer sur un terrain qui est déjà bien préparé pour lui. Voilà. C'est ça ce qui arrive dans notre prison centrale.
Et puis, ce désordre au parti présidentiel UDPS, où Victor Wakwenda, président de la Convention démocratique du parti, a été mis en liberté provisoire ce mardi au terme de sa comparution en chambre des conseils devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete à la prison centrale de Makala. Il y était détenu hier lundi par le parquet qui l'accuse de propagation de faux bruits et d'incitation à la désobéissance civile. D'après nos sources du parquet, cette liberté est due à son état de santé. Mais l'instruction va se poursuivre. Victor Wakwenda et Augustin Kabuya se sont réciproquement démis de leurs fonctions et cela a suscité de vives tensions entre leurs partisans la semaine dernière. Éclairage de Jeff Ngoï.
Des échauffourées ont éclaté à la permanence du parti de Félix Tshisekedi le jeudi dernier dans l'après-midi. Les militants de ce parti ont brûlé des pneus et barricadé les voies d'accès à la permanence pour empêcher Augustin Kabuya d'y accéder. À la base, le conflit opposant le secrétaire général et le président de la CDP, Victor Wakwenda. Mais les militants manifestaient aussi leur colère à la suite des nominations de nouveaux mandataires des entreprises du portefeuille de l'État où ils ne se sont pas retrouvés et se disent fatigués du chômage. le parti est submergé par des problèmes, des antagonismes inter-individuels. Cela intervient une semaine après que Wakwenda a déchu Kabuya et que ce dernier l'a aussi démis via la commission des disciplines. C'est du théâtre indigne pour un parti au pouvoir, d'après certains usagers du boulevard, bloqués dans les embouteillages plusieurs heures à cause justement de l'UDPS ce jeudi-là.
Nord Kivu, en fouillant la guerre, les menaces de déplacés s'installer sur des espaces vides dans le groupement Kibati en territoire de Nyiragongo. C'est ainsi que plus de 20 000 personnes se sont retrouvées sur le terrain de Don Bosco Ngangi au nord de Goma. Ici, ces déplacés essaient de se construire des abris avec tout ce qu'ils trouvent. Sacs en plastique usagés, débris d'emballage de tout genre, vieux vêtements, moustiquaires, tout pour se servir pour couvrir les petits abris. Et la pluie qui, chez eux, était signe de bénédiction lorsqu'ils cultivaient leurs champs, est aujourd'hui source de difficultés. Ces déplacés sollicitent l'aide du gouvernement. Des détails avec Rosalie Zawadi.
Selon Justin Kamana, président de ces sites, au moins 23 800 personnes vivent sur ce terrain. À part ceux qui ont pu se procurer des bâches pour couvrir leurs abris, les autres vivent un calvaire, comme l'expliquent ces pères des familles.
La vie est difficile depuis notre arrivée dans ces sites. Nous vivons dans des abris de fortune, couverts par des moustiquaires. Alors, quand il pleut la nuit, nous sommes mouillés et nous recourons au pagne pour couvrir nos enfants ou aux jackets. Mais c'est difficile. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide.
Ces conditions difficiles d'hébergement sont à la base de plusieurs cas de maladie, déplorent les responsables de ces sites. Ils sollicitent une intervention urgente du gouvernement et ses partenaires afin que les vies actuellement en danger soient épargnées. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
À Bandundouville, chef-lieu de la province du Kwilu, une dizaine d'assaillants armés arrêtés dans le territoire de Bagata ont été présentés hier lundi par la police nationale congolaise au gouverneur de province Willy Itundala Asang. Il s'agit de présumés auteurs de violences enregistrées ces derniers temps dans cette partie du pays. La cérémonie de leur présentation a eu lieu au commissariat provincial de la police du Kwilu en présence de plusieurs autorités et de la population. Pour le gouverneur du Kwilu, ces assaillants présumés doivent répondre de leurs actes devant les cours des tribunaux. Les points avec Irène Boma.
Ces présumés assaillants, au nombre de 15, présentés lundi au gouverneur des provinces, ont été arrêtés au village Bukusu, Misia, Kipana et Fatundu dans le secteur de Wamba en territoire de Bagata. C'est le commissaire supérieur principal, Kangulumba Makwakala, commissaire provincial intérimaire de la police du Kwilu, qui les a présentés.
Ces 15 assaillants, porteurs de 9 armes calibre 12 et de 2 machettes, que nous venons de présenter à l'autorité politico-administrative. Ces jeunes gens se sont livrés à des actes de vandalisme, des pillages, des tueries, des incendies et j'en passe.
Tout en félicitant la police pour avoir traqué ces assaillants, le gouverneur du Kwilu, Willy Itundala, a demandé à ce que ces derniers soient déférés devant les instances judiciaires afin qu'ils répondent de leurs actes.
Que les cours et tribunaux puissent s'occuper d'eux. Les actes qu'ils ont commis ne sont pas pardonnables. La population en a souffert sérieusement et surtout qu'ils ont récupéré les conflits qui étaient ailleurs. Tekeyaka, ils les ont transférés dans un milieu autre, cherchant à gêner la liberté des gens, que la justice puisse faire son travail.
Rappelons que récemment, une trentaine d'assaillants arrêtés toujours à Bagata avaient été présentés par l'armée à l'autorité provinciale. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Sud Kivu, une quinzaine de morts et beaucoup d'autres dégâts matériels. Bilan des éboulements de terre survenus la nuit dernière à Kamituga, en territoire de Mwenga. À la base, la pluie diluvienne qui s'est abattue là-bas jusqu'à ce mardi matin. Des sources sur place à Kamituga indiquent que ce bilan risque d'être revu à la hausse car d'autres corps seraient encore sous les décombres. La plupart des maisons écroulées sont celles construites sur les sites impropres à l'habitation. Écoutez ici le témoignage d'un habitant de Kamituga joint par Emmanuel et la Mejua Kabedi.
On a perdu, devant moi ici, il y a 16 corps précisément et d'autres sont en train de venir. Le drame s'est produit la nuit d'hier et aujourd'hui matin par la pluie qui a abattu vraiment depuis l'après-midi d'hier. Tous les corps sont devant le bureau du maire de la ville. C'est moi qui étais en train de récupérer les corps par-ci, par-là. Devant moi, 16 corps.
Parmi combien d'enfants?
Il y a deux petits-enfants et les autres sont des majeurs. Il y a des familles qui ont perdu le père et la mère. On est en train de fouiller encore, mais devant moi, 16 corps.
Vous pensez que d'autres pourront encore venir dans le décombre?
Certainement, oui. Parce que jusqu'à 12 heures, on avait encore 12 corps, mais tout à l'heure, là, on vient encore d'amener 4 corps et certainement d'autres vont venir.
Comment ces maisons se sont écroulées? Qu'est-ce qui est à la base?
C'est dans des quartiers différents d'abord, mais la cause, c'est la construction anarchique. Nous sommes en train de nous organiser ici localement pour trouver des cercueils et passer directement à l'enterrement. Et il n'y a pas de morgue ici à Kamituga qui peut contenir tous ces corps. Donc nous sommes obligés de les faire ce soir même.
Dans la province du Bas-Ouélé, le chef du sous-bureau de l'OMS Kisangani plaide pour l'implication de l'autorité politico-administrative locale dans l'organisation des deux dernières phases de la campagne d'intensification périodique des vaccinations systématiques IPVS dans cette entité. Pour le docteur Kolengbia Viko Willibard, l'appui de l'autorité provinciale à ces campagnes permettra la récupération de beaucoup d'enfants non atteints lors de la première phase. C'est ce qu'il dit au vice-gouverneur de province Christophe Lemond lors de sa mission effectuée la semaine dernière dans le Bas-Ouélé. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
La pandémie de COVID-19 et la grève des prestataires des soins de santé n'ont pas permis la vaccination régulière des enfants dans le Bas-Ouélé. C'est ce qui justifie l'organisation d'une campagne d'intensification périodique des vaccinations systématiques IPVS par l'OMS en collaboration avec le gouvernement. Pour le docteur Colling Biavico, chef du sous-bureau de l'OMS Kisangani, l'implication de l'autorité locale s'avère nécessaire afin de récupérer davantage les enfants non atteints ou insuffisamment vaccinés.
Nous voulons que l'autorité s'implique dans le sens à mobiliser la communauté. Parce que, par exemple, lors des lancements, pour organiser le lancement comme on l'a fait pour la campagne contre la polio, il faut qu'il y ait un lancement public, que les parents qui ont des enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés puissent être sensibilisés et amener ces enfants-là vers les différents sites qu'on a organisés pour cette campagne.
Réagissant à ce plaidoyer, le vice-gouverneur de province, Christophe Lemond, rassure son interlocuteur de la disponibilité de son gouvernement à faire en sorte que tout se fasse dans la symbiose et l'harmonie afin de préserver la santé des enfants de cette entité.
D'abord, garantir la sécurité de tout personnel de santé, des non-partenaires qui seront avec nous pour réaliser ces deux phases-là. En ce qui concerne le transport des intrants, pour que ces intrants puissent atteindre toutes nos zones de santé, nous allons faciliter la circulation libre de tous les acteurs.
Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province de Lomami, arrivé hier lundi pour la toute première fois à Mweneditu, d'un bus de la Société des Transports du Congo Transco. Parti de Mbujimayi l'avant-midi, ce bus Transco transportait plus de 40 personnes à son bord. Ce bus est rentré le même jour à Mbujimayi avec les passagers en provenance de Mweneditu. L'arrivée de ce bus a créé un engouement dans la ville ferroviaire. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le bus Transco est arrivé pour la première fois ce lundi dans la ville ferroviaire de Mweneditu. Il transportait à son bord plus de 40 passagers. Le maire de la ville et plusieurs habitants étaient au parking pour accueillir le bus Transco. Fideli Kabinda promet de mener le plaidoyer pour que le prix de transport fixé à 7000 francs congolais pour le voyage Mbujimayi-Mweneditu soit le même que pour Mweneditu-Mbujimayi au lieu de 15000 francs congolais. Pour Anissé Minga, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile, le bus Transco vient résoudre quelques problèmes liés au transport des personnes sur l'axe Mbujimayi-Mweneditu. C'est notamment celui des coupeurs de route et de la multiplicité des cas d'accidents. Il demande à cet effet, la réhabilitation de cet axe pour garantir une longue vie au bus Transco. Signalons que c'est le premier bus affecté au transport des personnes deux semaines après l'arrivée à Mbujimayi d'un premier lot d'engins composé de 5 bus destinés à la province du Kasaï oriental. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Tchad, lourd bilan après une attaque ce 22 novembre à l'aube contre un poste avancé de l'armée dans la province du Lac par des éléments du groupe terroriste Boko Haram. Selon un communiqué de la présidence tchadienne qui parle d'une attaque surprise, une dizaine de soldats ont été tués. Mais des sources locales parlent d'une trentaine de morts du côté des militaires. Et puis une base commune de planification et de lancement des opérations conjointes entre le groupe djihadiste État islamique a été visée par un drone turc dans un secteur au nord de la ville de Asaké dans le nord-est de la Syrie, a déclaré à l'agence France Presse un porte-parole des forces kurdes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, confirme le fait que la base a été touchée.
L'invité
de ce journal est le médecin chef des zones de santé de Nyiragongo au Nord Kivu, Dr Thierry Touano, parle de la crise humanitaire qui affecte à Kanyaruchinya et ses environs des milliers de déplacés et autres autochtones. Il s'entretient avec Sifa Maguru.
Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Alors nous sommes ici au centre de santé de Kanyaruchinya. Vous êtes le médecin chef de zone. Vous faites face à une crise humanitaire ici dans la région avec l'afflux des déplacés. Pouvons-nous savoir comment est organisée la réponse sanitaire par rapport à cette population?
Nous traversons une situation qui sort de l'ordinaire due à l'arrivée massive de la population qui ont fui des milieux. Les milliers naturels, je dirais, dans les Rutshuru et une partie de la zone de santé de Nyiragongo, dans les Kibumba. Et tous sont cantonnés maintenant dans 3 ou 5 aires de santé maintenant, présentement. Il y a maintenant une organisation de prise en charge gratuite de tous les déplacés ainsi que les peuples autochtones ou la population qui a accueilli les déplacés. Il y a vraiment une prise en charge qui est gratuite à Kibati, à Kanyaruchinya, à Monigi. Et maintenant, on est en train de penser aussi organiser une prise en charge gratuite à Rusayu et à Mudja, vu que de l'autre côté aussi, il y a notification des cas de déplacés. Alors, au niveau des zones de santé, nous avons une coordination, je dirais tenue par la zone de santé, secondée par les programmes des urgences au niveau de la DPS, ainsi que l'élite cluster santé OMS, ce qui est organisé. Donc là, c'est la coordination des activités. Et du coup, là, on essaie de positionner différents partenaires qui nous viennent en aide. Nous avons reçu premièrement les dons du gouvernement congolais qui est venu en aide à cette population, qui nous a donné un lot de médicaments. Il y a aussi un don qui a été donné par OMS et cela a été donné à 5 structures, 3 structures de base dans la zone de santé de Nyiragongo et 2 structures qui sont en dehors de la zone de santé, notamment l'hôpital général de Virunga et l'hôpital provincial, là où on fait les systèmes de référencement pour les malades qui nécessiteraient un plateau un peu élevé de prise en charge. Voilà un peu comment on travaille. Mais aussi, nous avons quelques partenaires qui sont là. Il y a MSF Belgique qui est à Kanyaruchinya, qui assure une prise en charge totale.
Et quelles sont les maladies qui prédominent dans cette région depuis l'afflux des déplacés?
Nous avons reçu plusieurs types de pathologies, notamment les pathologies d'origine hydrique, les diarrhées. Et dans les diarrhées, comme on est dans une aire de santé endémique au choléra, et maintenant là, on fait la surveillance des choléra au niveau de l'ITC ici à Kanyaruchinya. Et nous avons des pathologies comme les paludismes, les pathologies ici des types digestifs, donc de type respiratoire, des systèmes respiratoires, notamment la grippe chez les enfants, les infections respiratoires aiguës. Nous avons aussi maintenant une des pathologies, je dirais, ou une des phénomènes qui sort de l'ordinaire, ce sont là les accidents de trafic routier. Comme vous le constatez avec nous, les cas est logé tout au long de la route nationale numéro 2.
Parlons des défis. Vous gérez environ 80 000 personnes déplacées avec les autochtones. Est-ce que les 4 principales structures que vous avez citées, est-ce que ça suffit? Est-ce que vous avez d'autres problèmes d'approvisionnement?
Merci beaucoup. Je commence par les approvisionnements médicaments. C'est vrai, c'est un défi qui est là. Mais il y a quelques partenaires qui nous amènent des médicaments, c'est vrai.
Quels sont les besoins primordiaux, s'il vous arrive de faire un plaidoyer? Quels sont les besoins vraiment urgents dans cette zone de santé de Nyiragongo?
Nous avons premièrement les besoins sur les plans médicaux, mais il y a aussi les besoins alimentaires. Il y a des populations jusqu'à là qui n'ont pas encore eu la chance même de bénéficier des distributions. Troisièmement, il y a la partie PCI Wash, je dirais du côté toilette. Il y a vraiment insuffisance des toilettes parce que maintenant là, il y a des cas qui n'ont même pas des installations sanitaires. Voilà pourquoi j'appelle vraiment presque le gouvernement central pour pouvoir songer, augmenter aussi les installations sanitaires dans tous les camps de déplacés. Troisièmement, je dirais, c'est du côté abri. Il y en a qui passent nuit belle étoile. Il y a de ceux-là qui utilisent les moustiquaires comme abri. C'est que c'est vraiment quelque chose qui amène cette population dans une fragilité sanitaire. Parce qu'on peut donner les médicaments, on peut tout soigner, mais si l'abri cause déjà problème, c'est qu'on sera en train de faire un cercle vicieux.
Merci beaucoup, docteur.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était l'invité de ce journal, le médecin chef des zones de santé de Nyiragongo au Nord Kivu, docteur Thierry Touano, parler de la crise humanitaire qui affecte à Kanyaroutchinya et ses environs des milliers de déplacés et autres autochtones. Il s'entretenait avec Sifa Maguru. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à le réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.